Donc nous fêtons aujourd'hui la dédicace de la basilique du Latran. Alors la dédicace, c'est-à-dire qu'une église est consacrée. J'ai eu la grâce de participer à la dédicace de l'église que nous avons dans notre couvent en Argentine. Et c'est, parce que c'est très rare de participer à la dédicace, c'est quand on construit l'église, on la dédie à un saint, on la dédie, on la consacre. Et c'est intéressant de voir comment le rituel, si vous voulez, d'une dédicace, parce que je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient participé à la dédicace d'une église, parce que dans le diocèse, de ma connaissance, il n'y a pas de construction d'église, on se demande plutôt comment entretenir l'existant. Une dédicace, c'est fonctionne de la manière suivante, les rituels. D'abord, on arrose d'eau bénite les murs de l'église. Ensuite, vous avez 12 bougies, 12 bougeoirs, qui sont plantés dans les murs avec des bougies et du cierge pascal, on allume les bougies, etc. Donc les 12 bougies. Et puis un dernier rituel qui est très important, c'est la consécration de l'autel. On met du saint crème et on enduit l'autel de saint crème de façon à ce qu'il soit consacré. Et évidemment, ces trois gestes, ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça vous fait penser au baptême. Ça vous fait penser au baptême. À la fois l'eau, à la fois le Saint-Crème, à la fois la transmission de la lumière. Et puis ensuite, la parole de Dieu qui est dite, etc. Donc, la dédicace, c'est comme le baptême, on peut dire, d'une église. C'est intéressant parce qu'il y a ce parallèle, c'est ce que dit saint Paul hein, dans la lecture, hein, ce sanctuaire, c'est vous. On dédie une église de façon à ce qu'on la consacre, de façon à nous rappeler aussi de notre propre consécration. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose dont parfois on ne prend pas assez conscience, alors que c'est unique. Nous sommes l'unique religion, en tout cas les chrétiens, et c'est ce qui fait le lien entre les différentes confessions chrétiennes. Les chrétiens ont cette conviction d'être les temples du Saint-Esprit, parce que par le baptême, non pas par leur mérite propre, mais par le baptême. Et du coup, je trouve c'est très beau de méditer sur la dédicace de la basilique du Latran, donc cette cathédrale du pape, qui fait qu'on a un lien spirituel au niveau universel avec l'évêque de Rome. Donc, c'est la cathédrale de l'évêque de Rome qui est le pape, le successeur de Pierre. Voilà. Donc, je trouve c'est intéressant de dire c'est particulier parce que ça tombe un dimanche et donc on célèbre la dédicace de la basilique du Latran, mais de dire où est-ce qu'on en est nous-mêmes de cette prise de conscience d'être habité de l'intérieur. Le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. C'est celui qui est habité par une présence, celui qui, d'une certaine manière, vit d'un vertige parce qu'il se sent à la fois une grande fragilité, comme dit saint Paul, c'est dans des trésors, mais pourtant dans des vases d'argile. Et donc, cette mémoire de la basilique, de la dédicace de la basilique du Latran, ça nous fait rentrer en union avec toute l'Église universelle, en communion avec le pape, du coup, mais aussi personnellement dans notre vie spirituelle, où est-ce qu'on en est de l'écoute de la motion du Saint-Esprit? Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que ça se passe en nous? Est-ce que cette écoute de l'émotion du Saint-Esprit, c'est quelque chose dont nous avons conscience, que le Seigneur nous appelle, lance des appels dans notre cœur, à nous aussi d'être attentifs à ces appels. Et on voit bien que notre société, mais ce n'est pas très récent, hein, mais notre société, au contraire, il y a plein de forces centrifuges qui nous emmènent loin, loin de nous-mêmes, qui font qu'on devient analphabète de nous-mêmes. On n'est pas en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Au contraire, on est extériorisé de plus en plus. C'est ce que disait Bernanos dans un de ses ouvrages. Il disait « La société moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Tout est fait pour ne pas nous aider à rentrer dans notre âme et à découvrir l'autre. » L'autre divin qui habite en nous, de nous laisser aller au silence, nous laisser aller à la contemplation. Et d'une certaine manière, dans ce passage qu'on connaît bien, où je chasse les vendeurs du temple, Mais je me dis, qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? Là, c'est parce que c'était une fête, pas de la maison de mon père, une maison de commerce. Mais parfois, justement, il y a ce danger d'un peu de chosifier les choses, de ne pas être attentif à ces motions du Saint-Esprit. En tout cas, de ne pas le mettre en avant. Par exemple, on peut faire très vite de la religion une morale. Je vous donne un exemple. Vous avez certainement entendu parler de cette expression « on va remettre l'Église au cœur du village ». Vous avez entendu, oui, rien ne va plus, etc. On va remettre l'Église au cœur du village. Mais, en fait, quand les gens disent ça, ils ne parlent pas de remettre la vie spirituelle au centre du village. Parce que ça voudrait dire, non, on va remettre de l'ordre, on va remettre de la morale, on va remettre des interdits, on va remettre l'Église au centre du village. Et je trouve, vous voyez, c'est un peu pareil, on chosifie les choses, cette présence du Seigneur, là c'était pour des questions d'argent, etc. Mais on peut justement beaucoup trop insister sur la morale, alors que la vie chrétienne c'est d'abord une rencontre. Alors cette rencontre, bien sûr, elle nous fait agir de telle manière ou de telle autre, bien sûr. Mais c'est d'abord une rencontre, c'est d'abord une expérience. Hein, et l'Église, elle agit par attraction. Il y a une attraction, elle attire, parce que c'est justement cette expérience qui nous attire. Donc je trouve ça intéressant de nous-mêmes d'être attentifs à ne pas chosifier justement la réalité de l'Église, d'en faire simplement un instrument au service d'une morale, au service d'un ordre, etc. Mais d'être aussi attentif à ce que remettre l'Église au centre du village, c'est remettre l'expérience spirituelle au centre du village. Et qu'est-ce que l'on, dans notre Église, nous interroger, qu'est-ce qu'on met en avant pour remettre l'expérience spirituelle au centre de notre vie, de la vie de nos concitoyens. Il y a nos concitoyens, alors vous me direz, oui, on est très sécularisés, la laïcité à la française, etc. Il y a beaucoup de désintérêt pour la religion, ce qui est vrai. Bon. Mais en même temps, il y a des personnes, nos concitoyens, qui ont une aspiration spirituelle, mais qui vont trouver ailleurs. Qui vont trouver ailleurs, qui vont trouver dans des mouvances un peu liées au bouddhisme, aux sagesses asiatiques, etc., de méditation de pleine conscience. Donc il y a une quête pour certains, peut-être pas la majorité, mais une quête pour certains qui veulent découvrir, ont fait peut-être une expérience spirituelle, mais n'ont pas mis des mots sur cette expérience spirituelle et ne trouvent peut-être pas dans l'Église le lieu où approfondir cette expérience. Et je crois que ça doit nous interpeller, de dire dans les propositions que l'on fait, que l'on peut faire, etc., qu'il y ait, il y en a bien sûr, des propositions où par exemple, la paroisse a mis en avant l'adoration. Hein, l'adoration, donc ça c'est quelque chose qui justement aide à la vie intérieure. Et donc il y a des tours d'adoration, etc. Je ne suis pas dans l'organisation, mais je sais que c'est quelque chose qui tient tout à fait au cœur des paroissiens et du curé, etc. Et c'est excellent. Parce que justement, c'est un lieu d'intériorité, c'est un lieu où on met le cap sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes habités, voilà. Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ce que dit saint Paul. Voilà, et de voir du coup la réalité de l'Église, non pas tant comme une structure, bien sûr que c'est une structure, il y a un aspect pyramidal, de hiérarchie, etc. Bon, mais qui est au service d'une expérience. Hein, voyons beaucoup plus l'Église comme quelque chose de fluide. C'est ce que dit la première lecture à propos de ce fleuve qui coule de dessous le seuil de la maison et qui jaillissait vers l'Orient. Hein. Donc voilà, ce fleuve, l'Église comme un fleuve de vie. Ça veut dire que mettre le cap sur la vie intérieure, c'est être attentif à ce qui est vivant en nous, à ce qui nous fait être des hommes et des femmes vivants, des hommes et des femmes ressuscitées. Voilà, il parlait de la résurrection de son corps, hein, entre détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, ça lui a été reproché au moment de la passion, hein, cette phrase de Jésus, au moment de son procès, mais parce que, en fait, il parlait de son corps, c'est-à-dire qu'il parlait de mettre le cap sur ce qui en nous est source de vie, et ce qui est source de vie, c'est la vie intérieure. Alors, bien sûr, il y a la vie du corps, c'est important de la mettre en avant et d'en prendre soin, etc. Mais prendre soin de notre vie intérieure. Où est-ce qu'on en est là-dessus de cette, dans nos lectures, dans nos temps, dans la dimension contemplative? Il n'y a pas que les moines qui sont contemplatifs. Tout chrétien, parce qu'il est habité de l'intérieur, est amené à une dimension contemplative. Vous voyez, je pense. Donc, je trouve que c'est très beau qu'on ça tombe justement un dimanche, cette mémoire de la dédicace de la basilique du pape, de la cathédrale du pape. Voilà, parce que ça nous fait prendre conscience que l'Église, elle est au service de la vie. Il y a quelque chose de vivant qui doit, quand elle réalise sa mission, il y a quelque chose qui coule de l'intérieur, qui ouvre le cœur, qui fait que cette source de vie, elle se répand, et c'est comme ça que cette source de vie ensuite se répand autour de nous et appelle un certain nombre de personnes à c'est assez marquant la question des catéchumènes, vous voyez, de gens qui demandent le baptême, qui viennent de nulle part, on ne sait d'où ils viennent ces gens-là, etc. On ne connaît pas, on n'a pas fait de campagne de pub, on n'a pas fait de... Non, rien du tout. Et puis des gens par milliers, c'est quand même, c'est en France, c'est aux alentours de 18 000, donc c'est quand même pas rien, qui demandent le baptême, adultes, hein, on entend, donc, ou alors la confirmation d'adultes, etc. Donc, parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une grâce qui a été donnée, ils ont découvert la présence du Saint-Esprit dans leur vie, et ils ont vu que cette présence du Saint-Esprit, elle se développe, eh bien justement, quand on reçoit le baptême et qu'on vit comme baptisé, comme des personnes qui se voient comme un sanctuaire habité de l'intérieur. Alors, voilà, je trouve que c'est intéressant d'être attentif à cette réalité de vie, et voir comment est-ce qu'on peut aussi rendre vivant notre Église par ce fleuve de vie qui l'habite, hein, qui est le Saint-Esprit, ce fleuve de vie. Les fruits sont, voilà, et on voit bien que c'est la fécondité. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Voilà, la fécondité de nos vies, porter du fruit, bah, ça vient de la vie intérieure. Ça vient de la vie intérieure. Ça vient de l'expérience de foi. C'est ça, le porter du fruit. Et donc, voilà, ça nous remet le cap sur la bonne direction, hein, pas tant rigidifier les choses ou utiliser l'Église pour autre chose. On voit déjà, là c'est des questions d'argent, dans d'autres époques c'était des questions politiques. On a utilisé l'Église pour des choses politiques. On peut l'utiliser pour des questions uniquement morales, etc. Et ça, le Seigneur, il l'avait dénoncé. Il mettait ça dehors de l'Église. Ça, c'est pas cette communauté que j'ai voulu fonder. Moi, j'ai voulu fonder une communauté où il y a un fleuve de vie qui traverse et qui irrigue, hein, le monde entier. Alors demandons déjà nous-mêmes d'accentuer notre vie contemplative, notre vie intérieure, et demandons d'en être les témoins. Beaucoup en priant, en proposant tout simplement, humblement, hein, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Si quelqu'un vous confie une intention, ou vous dit, bah, il y a un membre de ma famille, pourquoi des collègues de travail, je prierai pour vous. On peut dire ça, je prierai pour vous. Et c'est puissant, c'est pas je pense à vous, je prie pour vous. C'est pas pareil. Je prie pour vous. Oui, vous dites à quelqu'un qui n'a pas de... Ah, bah, c'est peut-être un chrétien, etc. Donc, et ça fait prendre conscience de la vie intérieure. Donc, ça réveille cette vie intérieure. On va demander cette grâce au Seigneur de prendre soin de notre intériorité pour devenir des témoins.